إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، أما بعد، فأحمد الله وأشكره أن يسر لنا هذا في بيت من بيوت الله أن نتذاكر فيما بيننا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضمن وصاياه لأمته، ونتدارس اليوم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى حديثا عظيما ووصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي اخترته من بين الوصايا هو حديث موجود في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث جمع فيه أحاديث عظيمة ولو أنها صغيرة الحجم لكن كبيرة الفائدة. فاخترت هذا الحديث لأنه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وترون إن شاء الله تعالى أنها كلمة جامعة، وصية ليست كوصايانا، وصايا العباد تكون في صفحات بل أوراق بل رسائل بل كتب تجمع هذه الوصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فستسمعون من حديث أنه قال لسائله جمعوا في كلمتين، ووالله هذا الحديث لو نرجع إلى شروحه لوجدنا أنه أطال شرحه. لما يا عباد الله؟ لأنه أوتي جوامع الكلام، ولهذا يقتضي وينبغي للداعية أيضا وللمسلمين بالعموم أن يكونوا أو تكون نصيحتهم أو وصاياهم جامعة نافعة قصيرة سهلة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. فهذا الحديث ولو الظاهر منه أنه قصير مركب من كلمتين، أليس كذلك؟ قال لا تغضب، لكن سترون أو سنسمع إن شاء الله مع بعض الشرح للعلامة الشيخ الفقيه هذا العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ضمن شرحه لكتاب الأربعين النووية، وهو كتاب عظيم جدا تفنن فيه وأطال شرحه لتضمن هذه الوصايا النافعة والفوائد التي استنبطها. فمن أراد واستزاد أنصحكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب العظيم، وهو في مجلد واحد كما ترونه، هو كتاب صغير لكن والله لو تقرؤون ما فيه لتعجبتم، والله لو قرأتم الفوائد التي استنبطها الشيخ من الأحاديث لاستغربتم. وهذا معروف على الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من استنباطاته، لو ترجعون إلى كتبه وشروحاته للكتب لجميع المتون في كل الفنون والله لتعجبتم، ورأيتم يعني عجب العجاب من هذا الشيخ الذي استنبط من كلمة وكلمتين فوائد عظيمة عظيمة جدا عظيمة. فأنصحكم بالرجوع إلى هذا الحديث. ولهذا إن شاء الله تعالى سأقرأ عليكم بصراحة. الإنسان أحيانا يريد أن يشرح أمورا، لكن والله في الحقيقة هو معلوم واقع أنه سبقنا في ذلك من هو أعلم منا، أليس كذلك؟ ما من فن، ما من حديث، ما من آية إلا وشرحها أهل العلم. هذا واقع عباد الله. الإنسان لو اكتفينا بما شرحه أهل العلم وعملنا به، والله لكان خيرا لنا، والله لكان خيرا لنا. فلهذا إن شاء الله سنقرأ مع بعض هذا الشرح لهذا الحديث، لهذا الحديث الصغير والبسيط والمجمع يعني في كلمتين لا أكثر. قال لا تغضب. ستسمعون إن شاء الله شرح هذا الحديث. Donc je disais, on continue toujours les dorus qu'on avait commencé, les dorus quotidiennes. On avait commencé le mercredi et le vendredi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser et on va étudier, inshallah, un hadith qui parmi les hadiths des 40 Nawawi, l'imam Nawawi rahimahullah, il a regroupé dans un livre 40 hadiths. 40 hadiths. Et en réalité, si on revient, et même les savants, ils ont commenté sur ce livre de l'imam Nawawi, c'est pour ça qu'il a appelé les 40 Nawawi. Les 40, il y a 40 hadiths. Et Nawawi, c'est des revenons, imam Nawawi. Donc les 40 Nawawi, al-arba'in al-Nawawiya. طيب. فالإمام النووي جمع هذه الأحاديث من أهم أو هذه الأحاديث جامعة للدين كله، جامعة للدين. نجد فيها الفقه ونجد فيها العقيدة ونجد فيها الأخلاق والآداب والوصايا، كل شيء، كل هذه الأمور مجموعة في الأربعين النووية، يعني في هذه الأربعين أو هذه الأحاديث الأربعين التي جمع الإمام النووي وتفنن واختارها من بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على الأربعين، بل أكثر، بل الآلاف، بل مئات الآلاف، بل آلاف الآلاف. لكن الإمام النووي بفقهه وعلمه جمع الدين في 40 حديث، ومن بين هذه الأحاديث الأربعين اخترنا، وسيكون موضوع درسنا هذه الليلة حديثا من هذه الأربعين النووية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a choisi parmi les milliers, les centaines et les milliers de hadiths, il a choisi 40 hadiths. Et ces hadiths, elles regroupent toute la religion. On trouve la foi, le dogme, la jurisprudence, on trouve la politesse, le comportement, tout est regroupé dans ces 40 nawawi. Donc c'est très recommandé à un débutant qui veut commencer dans le hadith, qui commence par ces 40 nawawi. C'est vraiment, ils sont largement suffisants pour commencer. Et parmi ces 40, j'ai choisi un hadith parmi les hadiths où il dit, le prophète sallam, à celui qui veut nous le demander, on va voir l'explication en détail, ce hadith, il est en deux mots. Et on s'étonne, et ça c'est une qualité du prophète sallam, et parmi ses caractéristiques, que il ne parlait pas beaucoup. Et s'il parlait, il parlait un peu. Deux mots, trois mots. Mais dans ces mots, ces mots qui sont nombrables, qu'on les compte sur les doigts, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? On peut aller même à des dizaines et des centaines de leçons qu'on peut tirer d'un hadith qui fait un ou deux mots. Oui ou pas? Par contre, nous, si on essaie de faire une wasiya, certainement on va écrire des pages, des épîtres, ou on va même écrire un livre pour résumer une wasiya. Oui ou pas? Parce que si parmi nous il essaie de faire une wasiya à son fils, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui lister de dizaines de choses, ou même de centaines de points à respecter à son fils. Mais le prophète sallam, dans ses wasiya, on remarque un, deux mots, trois, quatre. Mais en réalité, quand on revient à l'explication de ces hadiths, on trouve qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont fait comme certaines, qu'est-ce qu'ils ont tiré comme leçon. Et on trouve ça dans les livres des gens de science. Et par exemple, un hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, dans le hadith de Mada fa'ala Nughayr, les savants, c'est un autre hadith, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, inshallah, mais un autre hadith aussi, il est connu, il fait 4-5 mots. Les savants, écoutez très bien, les savants, ils ont tiré 1000 leçons à partir d'un hadith. Donc, en revanche, au contraire, on trouve que ces peu de mots, ils englobent beaucoup, beaucoup de leçons. Et ces leçons, c'est alhamdoulilah, les savants, ils nous expliquent, ils nous éclaircissent ces leçons. Donc aujourd'hui, on a un hadith, on va l'écouter ensemble, et on va se baser sur l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et on va voir quelles sont les leçons qu'on va tirer à partir de ce hadith. Donc, « An Abi Hurayra radiyallahu anhu » Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, « Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam » Donc, selon Abu Huraira qui rapporte le hadith, « Un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Aousini, donne-moi ou laisse-moi un conseil. « Aousini, qala » C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taghdab, ne t'énerve pas. Samir, ne t'énerve pas. La taghdab. Faraddada mirara, c'est-à-dire le sahabi, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété plusieurs fois. Qal, c'est-à-dire le sahabi, il a redemandé un autre conseil. Aousini, il a répété la taghdab. Aousini ya Rasulullah. Le prophète a répondu la même réponse. La taghdab. Faraddada mirara, il a répété plusieurs fois. Le prophète a dit la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Et le hadith, il est authentique, il est rapporté par le Bukhari. On trouve dans le Sahih, le Bukhari. Regardez al-Wasiyah. Une personne peut dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? D'entendre la taghdab. On dit que c'est simple, mais on va voir l'explication du cheikh. Al-Sharh, l'explication. لم يبين هذا الرجل أو لم يبين هذا الرجل وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il commence à faire expliquer le hadith, ensuite il va tirer les quatre, il a tiré des leçons, il a tiré quatre leçons, quatre fawaïd de ce hadith. Mais au début, avant de commencer à tirer les hadiths, il a commencé à expliquer le hadith. Il dit, لم يبين هذا الرجل. Donc, l'homme qui est venu demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce conseil, quand il est, c'est-à-dire la personne qui est venue interroger le prophète, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom. C'est pour ça qu'il a dit, وَهَذَا يَأْتِي كَثِيرًا فِي الْحَدِيثِ لَا يُبَيَّنُ فِيهَا الْمُبَنِ. Et ça, on peut le trouver dans plusieurs hadiths. Toujours on lit, une personne est venue demander le prophète. Une personne est venue interroger le prophète. Mais le nom de la personne n'est pas détaillé ou bien précisé. وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. Parce que connaître le nom ou connaître, c'est-à-dire ses qualités, لا يحتاج إليه, c'est pas nécessaire. Parce que le hadith en lui-même, l'intérêt de ce hadith, c'est quand le prophète a dit لا تغضب. Est-ce que c'est clair? C'est pas le fait de connaître qui a dit ce conseil. La yuhtaj ilayh wa tajidu ba'd al-ulama yat'abu ta'aban 'azeeman fi ta'yin hadha ar-rajul walladhi ara annahu la hajata lit-ta'ab ma dama al-hukm la yataghayyaru bi fulan ma'a fulan. Donc on remarque, il dit, et on constate certains savants se fatiguent à chercher à qui a donné ce conseil, par exemple, ou à trouver la personne. Pourtant, ce n'est pas indiqué dans le hadith. C'est pour ça que le hadith, il est bien il est précisé. An Abi Hurayrata radiallahu anhu, anna rajulan. Donc, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, un homme est venu. Anna rajulan. Qu'un homme. Donc, cet homme, il n'est pas précisé. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas c'est qui. Donc, il dit que certains savants se fatiguent à trouver c'est qui. Il dit. والذي أرى أنه لا حاجة للتعب. Ce que je vois, c'est pas, on n'a pas besoin de se fatiguer pour trouver la personne. Pourquoi? Parce que le jugement du hadith ne dépend pas de la personne. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire le hadith, il est appliqué pour tout le monde. Donc c'est pour cela, il n'y a pas l'utilité de connaître le nom de la personne. قال. Donc là, on rentre dans le hadith. C'est-à-dire, l'homme a dit, Ya Rasulullah, awsini. Oh, messager d'Allah, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil. Et il dit, Al-Wasiyya, le terme Al-Wasiyya, le conseil, هي العهد إلى الشخص بأمر هام. C'est demander à une personne une chose très importante. Ou conseiller une personne une chose très importante. Donc c'est ça la wasiyya. Est-ce que c'est clair? Donner à une personne un ordre ou une chose très importante. Kama yusi ar-rajulu mathalan ala thuluthihi. Par exemple, une personne, il dit le tiers de mon bien, je l'offre ou je le donne à une personne. Donc ça c'est une wasiyya. Il ordonne une part de ses biens, par exemple, à une personne. Donc ça, c'est une wasiya. Donc ça, c'est le sens de al-wasiya. Il a donné un exemple. Ou ala waladihi sagir, où il donne un conseil, bien sûr, certainement, c'est une chose importante, à qui? À son fils. Donc ça, c'est une wasiya. Quand je dis, aussi waladi, je donne un conseil à mon fils. Ou ma ashbaha dhalik, ou une chose qui ressemble. Qal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a répondu à la personne, au rajul, à l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'homme est venu demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aousini, donne-moi un conseil. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La tarab. Combien de mots? La et tarab. Le cheikh al-Azamin dit, Al-Ghadabu, بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est vrai, on trouve dans les autres hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué c'est quoi الغضب. Comment on traduit الغضب? Les nerfs ou la colère. Barakallahu fik, la colère. Le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué c'est quoi la colère. Qui peut définir la colère? Qui connaît le sens de la colère? Quand je te dis, ne t'énerve pas. Qui connaît une définition de la colère? Aïe. Ça, mais pour un livre. Aïe. Mais c'est quoi? Le prophète l'a bien expliqué, l'a bien détaillé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayan wa wadah wa fassar ma'ana al-ghadab. Et il y a des hadiths sahiha. Bayana fi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi ma'ana al-ghadab. Fala shak idha awsa bi wasiyya illa wa annaha kanat mufassara ghayr mubhama. La taghadab. الغضب قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. Écoutez très bien la définition. Il dit أنها جمرة. Que signifie une جمرة? الجمرة. Presse. Hein? Une braise? Une ou un? Une braise. Voilà, il a dit أَنَّهَا جَمْرَةٌ يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ. Subhanallah. Le shaitan jette une braise où? Dans le cœur de l'être humain. C'est ça, le prophète sallam a défini la colère. فَيَغْلِ الْقَلْبِ. Une braise, elle est froide ou chaude? Hein? Très très chaude. Oui ou pas? Donc ce qui se passe, ou ce qui arrive, فَيَغْلِ الْقَلْبِ. Le cœur bouille. يَغْلِ مِنَ الْغَلَيَانِ. Oui ou pas? فَيَغْلِ الْقَلْبِ. وَلِذَٰلِكَ يَحْمَرُ وَجْهُ. Et c'est pour cela, on remarque les joues rougies. Oui ou pas? Une personne qui est en colère, on le remarque ou on ne le remarque pas? La première chose, dans son visage. On remarque que ses joues ont rougi. وَتَنْتَفِرُ يَحْمَرُ وَجْهُ عَفْوًا. Son visage rougit. Oui ou pas? Une personne qui s'énerve, elle n'est jamais calme. Elle n'est jamais ainsi. Oui ou pas? فَوَجْهُ يَحْمَرُ. وَتَنْتَفِقُ أَوْدَاجُهُ. Il a dit ses joues se gonflent. Oui ou pas? On le remarque dans le visage de la personne qui est en colère. وَرُبَّمَا يَقِفُ شَعْرُهُ. Et lui-même, ses cheveux se lèvent, hein? Ça dit quoi, Samir? Se lève tellement elle est en colère. Donc il dit sur la Rahim Rahimahullah, donc c'est ça, il a défini. Il a redonné la définition que le prophète sallam a donnée à la colère. أنها جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. Subhanallah. فيغلي القلب ويحمر الوجه وتنتفخ الأوداج. Il a défini, ensuite il a donné les signes de la colère. Certainement, si la personne, son visage il est rouge, et ses joues ils sont gonflés, certainement il est de l'apparence, il est énervé. Oui ou pas? On le remarque. Donc, dans le wasiyya, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à l'homme, la taghdab. Quel est le sens de la taghdab? Ne t'énerve pas. La taghdab. Ne t'énerve pas. Quel est le sens? فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب أو المعنى لا تنفذ الغضب. Il dit quel est le sens, le fait quand il a dit لا تغضب. Est-ce que le sens, écoutez très bien, est-ce que le sens ne t'énerve pas tout simplement, ou ne va pas plus loin si tu t'énerves, dans le sens qu'il a dit ne t'énerve pas. Quel est le sens? Est-ce que ne t'énerve pas à la base? Il ne faut pas que tu t'énerves dans tous les cas. Même s'ils font ce qu'ils font, ne t'énerve pas. La tarab. Hey, la yaqa'u minka al-gharab. Il ne faut pas que tu peux être dans un état où tu es en colère. Ou le sens, la tunfid al-gharab, c'est-à-dire ne va pas plus loin, ou il ne faut pas que les conséquences de la colère apparaissent. Quel est le sens? Le premier ou le deuxième? Est-ce qu'à la base, il ne faut pas que je m'énerve, ou si je m'énerve, il ne faut pas que je vais plus loin que ça? Parce que c'est vrai, le sens, il peut être ça ou ça. Quand je dis ne t'énerve pas, est-ce que, dans la regarde, est-ce que signifie ne t'énerve pas de, à la base? Ça c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est-à-dire, tu peux être en état en colère, mais il ne faut pas aller plus loin que ça. Le premier sens ou le deuxième sens? Vous êtes tous d'accord avec le deuxième? Pourquoi? Donc, apparemment, la majorité dit qu'il faut, c'est-à-dire on peut être en état en colère, on est en colère, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Pourquoi vous n'avez pas choisi le premier sens? Mon collègue il a dit, on est obligé de s'énerver. Barakallah en fait. Testa kitab, bardek kitab, inshallah. C'est vrai, et l'imam Nawawi il a dit, les savants ils ont suivi dans ça, et même ils ont dit que parce que être en colère, c'est la nature d'un être humain. Oui ou pas? C'est dans sa nature qu'il s'énerve. Oui ou pas? Est-ce que quand on était petit, on a appris d'être énervé? Est-ce qu'on l'apprend ça? Samir. Et t'en as pris? Non. Pourquoi? Voilà, comme il a dit, c'est automatique. C'est le fait, hein? La nature de l'être humain, qu'il est en colère. Il peut être dans cet état. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pas une chose qu'on acquit. C'est la nature de l'être humain qui s'énerve. C'est-à-dire, pour une raison, il peut s'énerver. Donc ça, le fait de dire... Donc c'est pour ça, les ulama, ils ont dit, c'est pas ce sens. C'est pas le fait que, à la base, tu t'énerves pas. Parce que c'est pas possible. Parce que le fait là, l'insan, maftour an yaghdab. Donc le sens, c'est pas que ne t'énerve pas à la base. Non, c'est... Quand tu t'énerves, il faut pas que tu vas plus loin que ça. Est-ce que c'est clair? Donc le Cheikh Al-Uthaymeen, il donne, ou il explique en plus de ça, il dit... إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب. Donc si on remarque de l'apparence du hadith, on va comprendre automatiquement que à la base on ne doit pas s'énerver, oui ou pas? Quand je te dis ne t'énerve pas, c'est-à-dire il ne faut pas que tu t'arrives où tu seras dans une situation où tu es en colère, sachant que ce n'est pas possible, oui ou pas? Donc il a dit de l'apparence du hadith, on va comprendre ça, mais ce n'est pas le bon sens. قال إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ أكسيوما دو لابارونس دو حديث قلنا أون دي لا تغضب أي الغضب الطبيعي سادير نو تينيرف با سادير لا كولير ناتشوريل إي سي با بوسيبل لكن هذا فيه صعوبة وي أو با باسكو دون لا ناتشور أون بو إتر أون إيتا أون بو سينيرفي إسكو سي فاسيل دو نو با سينيرفي ناتشورالمون جو دي ناتشورالمون. Est-ce que c'est facile de ne pas s'énerver, ni naturellement, je dis. C'est facile ou c'est dur? C'est dur, parce que c'est notre nature qu'on s'énerve. Donc c'est pas naturellement aussi que je me calme. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça que le prophète sallam a donné cette wasiya. La tardab. Hada fi sa'uba. Certainement c'est dur. Walahu wajhun akhar an yuhmala alayhi. Mais le hadith, il peut avoir un deuxième sens, qui est le suivant. Yuqal irbit nafsaka inda wujud as-sabab hatta la taghdab. Remarquez le sens du hadith de l'apparence, on peut comprendre le premier sens, qu'à la base, il ne faut pas que tu t'énerves. Mais en réalité, non. Le cheikh l'a dit, on doit prendre le deuxième sens, qui est irbit nafsaka inda wujud as-sabab. C'est-à-dire, tiens ton âme, quand les causes de la colère, ils sont sur toi, pour que tu ne t'énerves pas. Vous avez compris le sens ou pas? C'est-à-dire que quand on a eu des causes qui nous mettent en colère, il faut tenir notre âme. C'est ça le sens du hadith. Est-ce que c'est clair? Parce que certainement tout être humain peut s'énerver et être en colère facilement. Oui ou pas? Oui ou pas? C'est facile ou c'est dur d'énerver une personne? Samir. C'est très facile. Mais c'est quoi qui est dur? De se retenir. Barakallah. Donc le fait de retenir son âme quand on est énervé, c'est ça le sens du hadith. La taghdab. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça le sens. Et certainement, c'est pas facile de retenir son âme quand on est énervé. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour cela que le prophète a donné la wasiya. Il a dit la taghdab. Wal ma'na thani, donc le deuxième sens, il répète li qawlihi la taghdab ay la tunfidh aw la tunfidh muqtada al-ghadab فلو غضب الإنساب وأراد أن يطلق إمرأته فنقول له اصبر وتأنى. Donc il a dit, le deuxième sens, la tarab, il a tout à fait le muqtada al-ghadab. C'est-à-dire, ne mets pas en pratique ta colère. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est très facile de parler, de s'énerver. Et le pire, c'est quand on passe à une autre situation. Des fois, on peut prononcer une parole, comme il a dit, la personne, il s'énerve, il peut divorcer sa femme facilement. Oui ou pas? On lui dit, patiente et ne te précipite pas. Est-ce que c'est clair? فَرَدَّدَ الرَّجُلُ مِرَارًا أي قال. L'homme qui est venu demander le prophète sallam, il a dit أَوْسِنِي. Le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? لَا تَغْضَب. Il a redemandé une autre fois. أَوْسِنِي. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? لَا تَغْضَب. Il a répété encore. Il a redemandé le prophète le même à un autre conseil. Le prophète a répondu le même conseil qui est la tarab, ne t'énerve pas. Et on a expliqué le fait de dire la tarab, c'est pas ne t'énerve pas naturellement, non. C'est-à-dire retiens ton âme quand tu es énervé. C'est ça le sens du prophète quand il a dit la tarab. Donc ça, c'est l'explication mot à mot, en une structure simple du hadith. Donc Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il a tiré des leçons. Et on va voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer du hadith. Il a tiré quatre leçons. La première, min fawaidi hadha al-hadith. Awalan, hirsu as-sahabati radiyallahu anhum ala ma yanfa'. Regardez la première. Si on a lu le hadith, an Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna rajulan qala أوصني يا رسول الله قال لا تغضب ومررك مرارا لا تغضب. On a lu ce hadith. Est-ce que on peut tirer des leçons à notre niveau comme les leçons qu'a tiré Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah de ce hadith? La première leçon qu'on peut tirer de ce hadith, Cheikh Al-Uthaymin il a dit حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع. Les sahaba radiallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchaient ce qui est bien pour eux. Oui ou pas? Oui ou pas? La preuve, quand l'homme il est venu demander le prophète, il a dit donne-moi un conseil. Qui parmi nous demande à son frère donne-moi un conseil? Aousini. Qui parmi nous? Ça, c'est un conseil. Ça, c'est une leçon qu'on peut tirer. Il faut qu'on cherche notre bien. Est-ce que c'est clair? On demande le conseil des autres. Si on estime que la personne, il connaît mieux que toi, ou il est plus âgé que toi, ou il est plus expérimenté que toi, c'est bien et c'est préférable de demander et chercher son bien. Et c'est pour ça que c'est pour ça les sahaba, à l'occasion, ils profitaient l'existence et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui ou pas? C'est pour ça que le sahaba est venu lui demander Aousini. Et il n'y a pas mieux une wasiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Il n'y a pas ma fi wasiya afdal wa ahsan wa akmal min fami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? On a une wasiya qui sort de la bouche du Prophète sallam, il n'y a pas meilleur que cette wasiya. Donc c'est pour ça que le sahaba est venu, il a demandé le Prophète sallam, Aousini. Il n'a pas demandé, donne-moi de l'argent. Ou, il me manque ça. Ou, autre chose. Il a cherché son bien. Il a demandé ce qui est bien pour lui. Il a demandé, Aousini. Donc c'est pour ça, Charles Azim, il a tiré « Hirsu sahaba radiyallahu anhum ala ma yanfa'. » Les sahaba radiyallahu anhum toujours chercher ce qui est bien et utile pour eux. « Liqawli rajul » Donc il explique le fait que, et ça c'est tiré, le fait que l'homme a demandé au prophète, il a dit « Aousini, donne-moi un conseil. »« Wa sahabatu radiyallahu anhum » Une deuxième chose, « Sahaba radiyallahu anhum » إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم. Et c'est vrai. Sahaba radiallahu anhum, quand ils connaissaient une chose, qu'est-ce qu'ils faisaient par la suite? Ils la pratiquaient. Oui ou pas? Ils ne se limitaient pas à connaître les choses. Oui ou pas? Non, c'est pas suffisant. De connaître, c'est pas suffisant. Mais c'est de le mettre en pratique. Beaucoup parmi nous connaissent beaucoup de choses dans la religion, alhamdoulilah. Oui ou pas? Oui ou pas? On sait que ça c'est halal. On sait que ça c'est le haram. Mais qui s'abstient à de ne pas commettre le haram? Et qui pratique, essaie de chercher, c'est-à-dire met les causes pour avoir une chose qui est halal? Oui ou pas? C'est pour ça, les sahaba, radiallahu anhum, ils ne se limitaient pas à connaître le haq, connaître la vérité, mais surtout, ils les mettaient en pratique. Bal ya'maloun. Par contre, ils le pratiquaient. Wa kathirun minan nas al-yawm yas'aluna 'an al-hukm fiya'lamunahu walakin la ya'maluna bihi. Wallahi haq. Il a dit, beaucoup de gens demandent les jugements ou cherchent le jugement sur certaines choses, mais en réalité ils ne mettent pas en pratique. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا. Mais par contre, les sahaba رضي الله عنهم, s'ils demandaient une chose, ils mettaient en pratique. Et ça, c'est une différence. C'est à réfléchir, à mettre en pratique. Donc ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce hadith. حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع. Et ça, on a dit, c'est tiré de la parole quand le sahabi, quand l'homme est demandé au prophète, il a dit, Aousini, donne-moi un conseil. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce hadith, la taghdhab. Parce que nous, peut-être, souvent quand on lit un hadith, on comprend l'apparence du hadith, oui ou pas? Est-ce que c'est clair, oui ou pas? La taghdhab, on dit, c'est quoi le sens? Ne t'énerve pas, point. Oui ou pas? Mais non. Regardez l'ulama, qu'est-ce qu'il tire? La première, on a dit, hifz as-sahaba, radiallahu anhum, ala ma yanfa'. La deuxième leçon, anna al-mukhatab, écoutez très bien. Et wallahi, ça c'est une wasiya. Ça, normalement, la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce hadith, qui est tiré sur la rima, rahimahullah, normalement, ça, on doit consacrer une séance complète, juste pour cette leçon qui est tirée. Il a dit, أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة. Il a dit, أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. C'est-à-dire, quand on s'adresse à une personne, toujours on prend en considération son état. J'explique. Ce sahabi, donc d'après ce hadith, le sahabi est venu demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aousini, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a répondu? La taghdhab. Mais certainement vous connaissez des autres hadiths, écoutez, concentrez-vous. Certainement, on connaît beaucoup de hadiths, quand certains hommes aussi, certaines personnes, venaient demander aux hommes, il a dit, donne-moi un conseil, il a dit, قل آمنت بالله ثم استقم. Dis, j'y crois en Allah et sois droit. ثم استقم. Oui ou pas? Et des autres hadiths, et même des hadiths que certaines personnes demandaient, quelles sont les meilleures œuvres dans l'islam? Une fois, il a dit, c'est quoi? Faire la prière dans son premier temps. Mais dans d'autres hadiths, il a dit autre chose. Oui ou pas? Comment ça se fait que le prophète, il vient, la première personne lui dit, quels sont, donne-moi un conseil. Pour lui, la première personne lui dit, la tardab, ne t'énerve pas. Dans un autre hadith, une autre personne revient, une deuxième personne vient, lui dit, Aousini ya Rasulallah, ou donne-moi un conseil. Il lui dit, qul amantu billahi wa mustaqim. Par exemple, il lui dit, j'ai cru en Allah et sois droit. ثم استقم. Dans une autre hadith, il lui dit, ou quand les personnes demandent quelles sont les meilleures œuvres, les meilleures, dans l'islam, il lui dit, faire la prière dans son premier temps. Sinon, obéir tes parents. Sinon, faire le djihad dans son dîn d'Allah. Et on remarque, c'est-à-dire l'ensemble des hadiths, que une fois lui dit une chose, dans un autre hadith, il dit une chose. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Et pourquoi le prophète, il a changé le sujet? Ou on remarque la réponse a changé. Qui peut me donner le pourquoi? Il aura un livre. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez compris la question? Hajj, t'as compris la question? Ou je répète? Chavir, t'as compris la question? Qui a une réponse? Mokola, non, pas toi, tu vas prendre un livre. Vas-y, frappe dans le Mokola. Barakallahu fik. Écoutez très bien. Et c'est vrai, hein? J'ai pas entendu, voilà. J'ai pas entendu. Je vais te donner un livre, il n'y a pas de problème. La réponse est la suivante. Il disait, regardez, le prophète, il donnait le conseil par rapport à la personne. Pourquoi? Parce que celui qui est venu lui demander le conseil, et le prophète a répondu, la tardab, ne t'énerve pas. Le prophète savait qu'il s'énerve. Donc pour lui, il a dit, la tardab. Chouchik matin nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'autre, il savait qu'il ne fait pas sa prière avant son temps, il a dit, as-salatu fi waqtiha. Vous remarquez? L'autre personne, il sait que, par exemple, et chérissons des exemples, il sait par exemple une personne qui n'est pas droit, il n'est pas droit dans sa religion, il lui dit, قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ. Dis, j'ai cru en Allah, ثُمَّ اسْتَقِمْ. ثُمَّ اسْتَقِمْ. Sois droit. C'est-à-dire en pratiquant, c'est-à-dire en obéissant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Donc c'est ça la droiture. On avait déjà parlé sur ça, on a fait un dos sur ça. Donc, c'est très important. Donc vous remarquez, le prophète répondait par rapport à l'état de la personne. Et ça, c'est une leçon tirée du hadith. Non. أعد ال نعم رضي الله أنه لم يكن يخلص
لا
ها
يقول له يا معاذ أخلص دينك لله يكفيك القليل
طيب أيوة
دليل على أن معاذ بن جبل كان يقوم بأعمال الأرض
فهمت لي هذا قلت لك بمعنى هذا donc il disait une bonne question, il pose une question, il dit le prophète sallam il a dit à Mu'adh ibn Jabal, si le supposons que le hadith il est authentique, ça peut arriver, supposons les hadiths il est authentique, il a dit crains Allah, akhlis, sois sincère dans tes œuvres, le peu il te suffit. Oui ou pas? Donc il dit, la personne qui pose la question, il dit, est-ce que ça signifie que le Mu'adh ibn Jabal, il n'était pas sincère dans ses œuvres? On peut poser cette question. Moi, je vais te répondre par un verset. Juste un verset. Quand Allah Ta'ala, il a dit à son prophète, « Ittaqillah ». Oui ou pas? Allah Ta'ala a dit à son prophète, Ittaqillah. Que signifie? Est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne craignait pas Allah? Non. C'est pour le conseil. Même si la personne, et on a dit, Ittaqillah, si une personne est en face de moi, et c'était le wasiyah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Si une personne me demande un conseil, je dis ittaqi fillah fi sirri wal alam. Crains Allah. Pourquoi? Parce que la personne, il peut oublier. Il peut être dans une situation de faiblesse, où sa foi, elle peut diminuer, ou etc. Mais le fait que, c'est un rappel. Inna dhikrata fi'al mu'minin. C'est un rappel, c'est-à-dire rappelle-toi, dans un moment, la wasiya que je t'ai dit. C'est vrai, être sincère, ça, le fait de dire ittaqillah ou ikhlis, akhlis amalek, là, normalement, on doit se rappeler de ça. Donc, chaque action qu'on doit le faire, oui ou pas. Parce que normalement, à la base, chaque action qu'on veut faire, toujours, on doit penser, est-ce que c'est sincère pour Allah ou pas? Est-ce que c'est clair? Je veux faire une chose, je vérifie, subhanallah, هل أنا متقين لله? Est-ce que moi je crains Allah? Parce que je regarde si cette action, c'est bien. Certainement, هذا من تقوى الله. Mais si l'action elle est mauvaise, est-ce que ça c'est من تقوى الله? Non. Donc c'est pour ça, toujours on doit se rappeler, parce que ça c'est une wasiya. C'est pour ça, si tu dis ikhlas ou ittaqillah ou autre chose, c'est pour que tu te rappelles. Et si l'utilité, pourquoi l'wasiya? Je te donne un conseil. Et ce conseil, c'est pas sur le moment. C'est toute ta vie. Tant que tu peux pratiquer, rappelle-toi. Ittaqillah. C'est pour ça, chaque action qu'on pratique, toujours, on doit penser, est-ce que c'est sincère pour Allah ou pas? Oui ou pas? On doit penser, parce que si on le fait pour les autres, etc., on peut, certainement, l'adoration, on ne peut pas l'accepter. Parce que mes choses trop beaux, l'ibadah, l'ikhlas lillah. Si tu fais la prière pour telle personne, ou tu fais ça pour parce que tu veux oublier telle personne, non. Est-ce que tu as oublié Allah? Non. Donc c'est pour ça, si on n'est pas sincère dans les œuvres, l'adoration, l'acte, il n'est pas accepté. Donc c'est pour ça, quand on lui dit, ikhlas lillah, ça c'est wasiya. C'était rappelle-toi, quand tu fais une action, rappelle-toi. Mais certainement ne signifie pas que Mu'ad ibn Jabal ou autre. Et c'est pour ça que je dis qu'Allah Ta'ala dit à son prophète, à son messager, Ittaqillah, est-ce que ça signifie que le prophète ne craignait pas Allah? Hasha lillah. Mais ça, c'est une wasiya là. Et certainement, la personne, il a toujours besoin de se rappeler, oui ou pas. Certainement, on peut commettre des péchés. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Ou parce que je suis dans un moment où, dans un moment de rafla. C'est un oubli. Certainement, souvent, quand on fait des choses, est-ce que dans la mosquée, on peut boire de l'alcool? Hein? Impossible. Pourquoi? Parce que, تقول انا في مسجد في انا في بيت من بيوت الله. Oui ou pas? Je suis dans une maison, parmi les maisons d'Allah. Je peux pas faire une chose. Pourquoi? Parce que t'as tahdir. Sur le moment, tu penses qu'Allah Ta'ala te voit, il te regarde. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une chose. Pourquoi? Parce que, mais on sort. On peut faire, on ne peut pas faire. En fait, si on sort de la mosquée, parce qu'on oublie. On oublie que Allah Ta'ala me... Je dis, on oublie, c'est pas on fait volontairement, ça veut dire volontairement, c'est autre chose. Je parle que des fois on commet des péchés, souvent c'est par oubli. Souvent c'est khurud-nafs, c'est l'âme. On sait bien que l'âme jamais te demande de venir à la mosquée, certainement, oui ou pas. Toujours, on fait le contraire. Donc c'est pour ça, insan yastahdir taqwallah, hada min kamal ibadah. Et certainement, on doit toujours penser, à chaque action on doit le faire, on doit penser que, est-ce que c'est sincère, c'est-à-dire on doit penser que c'est sincère pour Allah. On doit penser que ça fait partie de la crainte d'Allah ou pas. Donc on est recommandé de le faire. Donc revenons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à une personne, la taghdhab, c'est-à-dire il est connu qu'il s'énerve ou toujours il se met en colère facilement. Donc ça, le Fahim al-Hamla, il a tiré cette leçon. Et il donne des exemples. فإذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. Il a dit pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas demandé de craindre Allah, oui ou pas? Parce que craindre Allah sinon c'est général. Craindre Allah, ça c'est général, oui ou pas? C'est-à-dire ne te mets pas en colère qui va te ramener de faire du haram, ne mange pas du haram, ne parle pas mal sur les gens, ne tue pas ton frère, etc. Toutes ces choses, c'est des interdites. Mais le fait de dire crains Allah, normalement, ça suffit largement. Mais pourquoi c'est pour ça que Cheikh Al-Hamid dit, pourquoi le prophète n'a pas demandé de craindre Allah général. Cheikh Al-Hamid il dit, et on l'a expliqué, la réponse est la suivante. Donc, on s'adresse à la personne en prenant en considération son état ou sa nature. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. Donc il a dit le prophète, certainement c'est comme le prophète sallam savait que cette personne il s'énerve facilement et trop. C'est pour ça qu'il a dit غضوب. غضوب, c'est-à-dire il s'énerve facilement et beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il a dit à cette personne لا تغضب. مثال آخر, un autre exemple. رجل أتى إليك, regardez. Et ça, on peut ce qu'il a tiré, et ça c'est même pour nous. Il se dit à Rajul, un homme est venu. وقال أوصيني. Un homme vient te demander, donne-moi un conseil. أوصيني. وأنت تعرف. Et regardez, il dit, et toi tu sais. أن هذا الرجل يصاحب الأشرار. Et tu sais que cet homme côtoie des mauvaises personnes. Il côtoie des mauvaises personnes. يصاحب الأشرار. فيصح أن تقول. C'est mieux que tu conseilles aussi qu'un لا تصاحب الأشرار. Je te conseille de ne pas côtoyer ou marcher avec des mauvaises personnes. Est-ce que c'est clair? Donc on regarde la personne comment il est. Si on le sait que, par exemple, dans l'exemple qu'il a donné, on sait que cette personne, il côtoie des mauvaises personnes, donc la meilleure wasiya et le meilleur conseil pour lui, c'est de lui conseiller de ne pas côtoyer les mauvaises personnes. لِأَنَّ الْمَقَامِ يَقْتَضِيهِ. Parce que ce cas nécessite ce conseil. Est-ce que c'est clair? Il donne un exemple. ورجل آخر جاء يقول أوصيني. Une autre personne vient te demander أوصيني, donne-moi un conseil. وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى أهله. Une personne, tu sais bien que il se comporte mal avec sa famille. Tu sais ou t'as entendu. T'as une information, t'as une certitude, une information correcte que cette personne il traite mal sa famille ou il se comporte mal avec sa famille. Donc tu lui dis, on lui dit, أحسن العشرة مع أهلك. On lui dit, sois bien et correct avec ou soit essaie d'avoir un bon comportement avec ta famille. فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc cette leçon tirée de ce hadith, elle est tirée d'où? Est-ce que sur la famille il a tiré comme ça? D'où il a tiré cette leçon? Le fait que, quand on s'adresse à une personne, on remarque, on regarde toujours sa situation et son cas. Est-ce que ce cas nécessite ce bon conseil? D'où on a tiré ce conseil? Ou cette leçon? Il a dit, جواب النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يوصي الإنسان بما يقتضي حاله لا بأعلى ما يوصى به. Et c'est vrai, il a dit, Cheikh Al-Haymin, d'où on a tiré cette leçon? Une personne vient te voir. C'est quoi le mieux? De lui dire, fais la prière dans son temps, fais sadaqat, jeûne, crains Allah, rentre dans l'islam s'il est mécréant, etc. Ou de dire à une personne, ne t'énerve pas. C'est quoi la meilleure des choses? je dis, fais la prière. Jeûne le mois du Ramadan. Fais, sors le monde, zakat. Fais al-hajj. Rentre dans l'islam. Ça, c'est les piliers de l'islam. Ou tu dis à une personne, ne t'énerve pas, frère. C'est quoi le mieux? Hein? Les piliers de l'islam ou tu dis, ne t'énerve pas? Ne t'énerve pas. Et lui, il dit les piliers. Donc, on n'est pas d'accord. Shurahim Rahmallah, il a dit, et c'est là qu'on a expliqué. On regarde le cas de la personne. Si la personne, elle est déjà musulman, est-ce que je dis fais la prière dans son temps, sachant qu'il est à la mosquée? Est-ce que je dis sors zakat? C'est vrai, c'est mon conseil. Mais je regarde l'état et le cas de la personne. Si je sais qu'il est musulman et déjà il a accompli cette prière, et je sais qu'il s'énerve, c'est mieux de lui dire ne t'énerve pas, Akhi. Est-ce que c'est clair? Donc il faut regarder la situation et le cas. C'est pas toujours fais la prière, sors zakat, fais le hajj. Non, il faut regarder le cas de la personne. Supposons un exemple. Une personne ne s'énerve pas. Moi je sais que s'énerver, il est normal. Mais je sais que il y a une zakat. Ou par exemple, il est riche, etc. Il a la capacité de faire le hajj. Il n'a pas fait le hajj. C'est quoi le bon conseil pour cette personne? Si lui, il vient te dire, Aousini, donne-moi un conseil. Est-ce que je dis, ne t'énerve pas, ou va faire ton... Akhi, mon frère, ami, mon petit, ça dépend de la personne. C'est mieux, c'est bien de faire le hajj. Tu dis, franchement, moi, je l'ai fait, mashallah, ça serait bien. Tu le pousses, tu l'excites, tu l'invites à faire ce hajj. Ou de lui dire, ne t'énerve pas. C'est quoi dans ce cas? Appeler de faire le hajj. Est-ce que c'est clair? Donc il ne faut pas dire parce que le hajj il est important ou la prière elle est importante, donc je vais donner le conseil. Et c'est la preuve. Pourquoi le prophète? Parce que le prophète, il aurait dit directement, fais la prière dans son temps. Oui ou pas? Mais c'est pas ça. C'est pas parce que c'est à une grande valeur, on va commencer par ça. C'est pour ça qu'il a dit ça. Je vais faire une explication dans la phrase que je viens de lire. C'est pas parce que la chose est très importante, je vais commencer par le plus important. Non. On regarde la personne par personne. Si lui, c'est bien de lui conseiller de faire la prière dans son temps, je dois lui faire un conseil. Faire la prière, c'est les meilleures œuvres. Si lui, je sais qu'il s'énerve trop et facilement, etc., c'est lui que je conseille qu'il s'énerve pas, qu'il se calme, que. Si l'autre personne, il sait que, ça vérifie tout, mais je sais que bien qu'il se comporte mal avec sa famille ou il a un mauvais comportement, le bon conseil pour lui, c'est qu'il se comporte bien et cohabite avec les gens ou sa famille. Regarde ce qui est utile pour lui. Regarde ce qui est utile pour lui. C'est certainement, c'est bien de l'appeler la personne à l'islam, mais c'est bien aussi de se comporter bien avec lui. Donc on regarde ce qui est bien pour lui. C'est parce qu'une personne, moi j'invite une personne chez moi, je ne peux pas directement rentrer dans l'islam. Non, je ne peux pas lui dire ça. Même le prophète n'a jamais dit ça. Le prophète a enseigné les gens l'islam. Je te dis, c'est quoi l'islam? Mais jamais je te dis, Harry, rentre dans l'islam, je ne peux pas te dire ça. Le prophète et les sahaba, quand ils ont propagé l'islam, c'était quoi leur message? Eux, ils propageaient l'islam. Ils propageaient l'islam. Les autres, ils ont compris c'est quoi l'islam. Ils sont intéressés, ils ont rentré. C'est pour ça, nous, si on est correct, si on est correct avec nous-mêmes, Wallahi, chacun parmi nous, c'est un rasoul. Parce qu'à la base, il ne faut pas dire que l'islam, c'est les mosquées aussi l'imam qui va propager. Non. Chacun parmi nous est un messager de l'islam. À la base, c'est ça. Si on veut propager correctement l'islam, c'est notre salat. Aktafi bihad al-qadar. Wa nukmil l'usbu' al-qadim, inshallah ta'ala, baqiyat al-dars. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.